croyances sont appuyées par des sources. Donc j'invite à tous ceux qui veulent contester ce qui est écrit à venir et à amener aussi leurs sources ou contester même les sources. Mais voilà, pour les idées sur la Bible, j'ai amené la Bible. Des fois, on la lit mal, la Bible. Vous savez, la Bible, c'est un livre qui est un ouvrage, je dirais, si on peut parler comme ça de la Bible, qui est très, très mal lu et très mal étudié. D'ailleurs, même dans les grandes yeshivotes, la Bible, c'est maximum une demi-heure d'études par jour. En général, on étudie le Talmud toute la journée. C'est très, très mal appris, enseigné. Et on la lit, on l'interprète toujours très très mal. Et souvent on l'interprète avec des commentaires qui ont 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans après que le texte ait été rédigé. Ce qui fait qu'il y a quand même des anachronismes et des aberrations qui sont évidentes mais qu'on répète.
Alors, je vais vous poser une question à ce sujet justement, parce que vous avez dit contestation, contester, et on va évacuer l'idée tout de suite par rapport à ceux qui pourraient vous dire que pourquoi ce livre en ce moment, il dérange peut-être nos certitudes, notamment au niveau des croyants, qu'il y a un regain d'antisémitisme, et c'est le moins qu'on puisse dire, et notamment en France, et que c'est peut-être pas le moment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre?
D'abord, c'est jamais le moment, oui. Premièrement, parce que l'antisémitisme, vous le savez, nous le savons, c'est un phénomène qui, malheureusement, est toujours présent. Et deuxièmement, ce n'est pas un livre antisémite. Voilà, ça c'est... ce n'est pas un livre antisémite, bien au contraire. C'est un livre qui essaye de remettre, d'un point de vue historique, les idées que nous avons reçues. Moi-même, j'en fais partie, évidemment, en étudiant à la yeshiva, en étudiant à l'école juive. On nous apprend des choses qu'on ne conteste pas parce que c'est presque des dogmes ou des axiomes. Et puis on se rend compte, quand on fait des études d'histoire, eh bien que ce n'est pas tout à fait la réalité. Et cette réalité, je ne l'ai pas inventée non plus, elle est dans les textes. Et que voulez-vous, quand je vous donne juste un exemple, qui est un exemple très, très rapide. Lorsqu'un roi qui s'appelle Josias, un roi de Judée, en -622, on nous rapporte dans la Bible que dans le cadre d'une réforme pour instaurer le monothéisme et pour instaurer la centralisation du culte, détruit une maison de prostituées qui était collé au temple de Jérusalem et qui fonctionnait, ça veut dire que quand un roi détruit une maison de prostituées, ça veut dire que la prostitution, non seulement elle existait, mais elle était institutionnalisée, elle était officielle. Et tous ceux qui se rendaient au temple, en pèlerinage, ne pouvaient pas ne pas voir cette maison qui existait. La seule chose qu'on ne sait pas, parce que la Bible ne dit pas à qui ces jeunes femmes étaient destinées, aux prêtres ou alors à l'ensemble du peuple, mais ça veut dire que pendant des centaines d'années, il y a eu, oui, une prostitution qui est officielle, malgré, évidemment, que le texte, je parle du Pentateuque, hein, de la Torah, nous interdit, évidemment, toute forme de prostitution. Mais dans les faits, c'était quelque chose qui existait, c'était un phénomène qui existait, de même que le monothéisme qu'on croit...
Alors on va y revenir, oui, si d'accord. Vous le voulez bien. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé vos ouvrages, parce que finalement ils sont les plus fidèles à la tradition juive, parce que source à la pluie, avec cette exploration méthodique et sans préjugé de l'histoire biblique, rabbinique et talmudique du peuple d'Israël, eh bien vos ouvrages donnent du sens et nous permet sans doute de revoir des choses qu'on ne savait pas ou qu'on s'imaginait être vrai. Donc merci pour ça. C'était ça aussi un peu l'idée.
Oui, évidemment, c'était de remettre les choses à leur place et d'essayer un petit peu, encore une fois, d'essayer de contextualiser les choses. Vous savez, j'ai tellement de touristes qui m'ont dit le mur des lamentations, l'endroit le plus sacré pour les juifs, le lieu le plus sacré. Ben non, c'est-à-dire c'est tout bête, mais il existe un lieu le plus sacré pour les juifs qui se trouve là, sur la roche, là où se trouve justement le dôme du rocher, le dôme en or que tout le monde aperçoit à Jérusalem lorsqu'il vient en visite. Mais ce mur-là, ce mur qu'on vénère, qu'on adore, est tout simplement un mur de soutien qui a été construit par un roi qui était cruel, qui était illégitime et qui n'a pas de valeur. Il a une valeur symbolique, mais sûrement pas de sacré. Et ça, c'était très important de... Ben, c'est des choses... Je dirais, pour moi, c'est le ABC, pour moi, qui sont des choses évidentes. Justement, quand on fait un peu d'archéologie et d'histoire de l'archéologie, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on a transformées. Alors, vous savez...
Alors, pourquoi ?
Parce qu'on a besoin de symboles. Oui. Parce qu'on a besoin de symboles.
Et qui perdurent autant de génération en génération ?
Oui, c'est ça. Alors, oui et non. Par exemple, je prends Masada, c'est le symbole de l'héroïsme. Il est vrai que...
Alors il faut le dire, hein, vous l'expliquez, et ça aussi c'est passionnant, vous dites, pour résumer, hein, que la résistance de Masada est un mythe, et vous expliquez ce que disent les sources historiques à ce sujet, et finalement ça bat en brèche ce qu'on pensait.
Ouais, la résistance, entre guillemets, de ces hommes qui ont préféré tuer leurs enfants, tuer leurs femmes, et se tuer eux-mêmes plutôt que se battre enfin contre les Romains, parce que c'était le but, l'objectif de leur... de leur vie, c'est pas tout à fait un mythe, mais même l'État d'Israël, voilà, je prends comme exemple, l'État d'Israël, vous savez ce mythe-là, je reviens juste un petit peu en arrière, au moment de la révolte du ghetto de Varsovie. Donc,
je peux vous interrompre ?
Bien sûr.
Pourquoi idée reçue et pas mythe, justement ?
C'est une bonne question, parce que ce sont des idées qui sont tellement, tellement ancrées, c'est pas tout à fait un mythe, parce que préférer mourir plutôt que devenir esclave, c'est peut-être de l'héroïsme. Mais ce que je veux montrer par là, c'est que Masada était un besoin, on avait besoin de le transformer justement en symbole, en mythe, dans les années 43, en avril 43, parce qu'il y a eu la révolte du ghetto de Varsovie, et qu'en Palestine de l'époque, les jeunes juifs sionistes palestiniens avaient eux aussi besoin d'un mythe. D'un mythe, mais qui se déroule pas en diaspora, en galoute, là où les juifs sont censés justement ne pas se défendre et être faibles et courber les chines. Ils avaient besoin d'un mythe en terre d'Israël. Et là, c'est là qu'on a transformé Masada en mythe, à tel point que à partir des années 50, il y avait des événements, des cérémonies militaires de Tzal, où on prêtait serment, où tout le monde disait « Masada ne tombera pas une seconde fois ». Bon, les jeunes sionistes palestiniens des mouvements de jeunesse qui en 43, 44, 45 avaient besoin de faire naître un mythe à Masada par rapport aux différentes révoltes des ghettos d'Europe de l'Est n'avaient pas lu toute l'histoire de Masada d'abord et toute l'histoire, le contexte de la grande révolte de Jérusalem. Or, quand on lit Flavius Joseph, et on le lit, les historiens le lisent un peu, on se rend compte, peut-être maintenant je vais spoiler un petit peu le chapitre, que les résistants, entre guillemets, qui étaient à Masada, étaient ce qu'on appelle des sicaires. Des sicaires, c'est un petit groupe de zélotes, donc de révoltés, qui, entre autres, ne faisaient que de tuer, ou d'assassiner plutôt à Jérusalem, des juifs qui étaient considérés à leurs yeux comme des collaborateurs qui ne voulaient pas combattre contre les Romains, ou qui étaient pour un dialogue avec les Romains et empêcher que Jérusalem soit détruit. Donc ces sicaires sont chassés eux-mêmes par les zélotes de Jérusalem, ils sont chassés parce qu'ils assassinent le grand prêtre de Jérusalem, et ils se réfugient, non pas des Romains, ils se réfugient des zélotes, c'est-à-dire des Juifs qui se révoltent contre les Romains, ils se réfugient à Masada pour ne pas être tués par d'autres Juifs, parce qu'eux-mêmes tuent des Juifs. Voilà, dans Flavius Joseph, il y a un récit qui dit que ces sicaires à Masada ont besoin de nourriture, ils font une descente à En-Gedi, qui est un village juif, et ils tuent, ils assassinent 700 hommes, femmes et enfants pour piller le village. Donc c'est pas des gens bien. C'est pas des gens bien, parce qu'en plus, et ça c'est à l'encontre des Juifs du ghetto de Varsovie qui ont pris les armes et qui sont morts, les armes à la main, au moment où il faut prendre les armes, au moment où les Romains sont prêts à conquérir cette forteresse de Masada, ils se rassemblent et ils vont tuer de leurs propres mains les enfants qu'ils aiment, les femmes qu'ils aiment, et ils vont se tuer eux-mêmes. Alors vous savez que dans le judaïsme, nous qui sommes extrêmement attachés à la vie, nous qui disons qu'il faut tout profaner, même le jour du Kippour, pour sauver une vie, nous ne pouvons pas admettre que des personnes qui ont encore une chance peut-être de vivre, et même peut-être esclaves, puissent porter atteinte à leurs proches et à eux-mêmes. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les rabbins n'ont jamais rapporté l'histoire de Masada.
Alors c'est passionnant, mais je me fais quand même l'avocate du diable, parce que peut-être que quelqu'un qui nous écoute va avoir cette remarque de la véracité des propos rapportés par Flavius Joseph. Chez les historiens, on sait que tout n'est pas vrai, que c'est des commandes spécifiques et que on ne peut pas prendre au premier sens, au sens littéral, tout ce qu'il dit. Vous, votre intérêt, c'est que vous, en fait, dans vos ouvrages, ces deux tomes, c'est que vous recoupez avec d'autres histoires.
Bon, tout d'abord, Prenons par exemple l'exemple de Masada, oui. qui est un exemple qui a frappé, qui est traumatisant. Hein. Ces personnes, on parle de 1000 personnes qui se sont tuées, de façon même qui réveille un peu le respect des Romains. Les Romains, quand ils rentrent, Flavius Josèphe raconte qu'ils étaient ahuris et même, je dirais, perplexes quant au courage de ces gens qui ont eu, entre guillemets, encore une fois, le courage de se tuer et de tuer leurs proches. Flavius Josèphe, évidemment, est un homme qui est considéré comme un traître de pas l'ensemble du monde juif, mais qui nous a laissé un héritage qui est comparable à une Bible. C'est-à-dire sans lui, on ne saurait rien sur cette période, et même sur la période qu'il a précédée, c'est-à-dire sur le roi Hérode, et il nous apprend aussi beaucoup de choses sur les Maccabées, en parlant de Hanouka, énormément de choses. Il vient nous compléter et vient apporter aussi, innover une série de connaissances absolument incroyables. Vous avez raison, Flavius Josèphe essaye, dans son récit, de se justifier. C'est-à-dire que lorsqu'il parle des Romains et des révoltés, des zélotes, évidemment, il dit à chaque fois, moi j'avais raison, moi j'ai essayé de les convaincre, j'ai essayé de les raisonner, ils m'ont pas écouté, c'est eux qui ont amené la catastrophe. Vous avez raison qu'il faut prendre un peu de recul et il faut être extrêmement prudent.
Là, Parce que c'est votre démarche, c'est ce que vous faites dans...
Mais il s'avère que les faits sont exacts. C'est-à-dire, il y a une chose qui est très importante d'ailleurs quand on lit Flavius Josèphe, c'est le nombre de les chiffres. Les chiffres qu'il avance à chaque fois sont très probablement des chiffres qui sont énormément exagéré, parce qu'il parle plus de certaines batailles ou de certaines guerres fratricides en dizaines de milliers de morts, ça semble un peu incroyable. À Jérusalem, la grande révolte, il parle 1 million de morts, ça semble peu probable, vu que Jérusalem ne pouvait pas accueillir autant de monde. Ça, il faut être très prudent au niveau des chiffres. Mais au niveau des faits, grâce à Flavius Josèphe, dans l'archéologie, on a retrouvé des choses incroyables. Ce n'est pas dans le livre, mais quand on a retrouvé... le chemin qui mène de la piscine de Siloé jusqu'au temple, le chemin que prenaient ceux qui pèlerinaient au temple, ceux qui venaient pendant les 3 fêtes de pèlerinage, on a découvert aussi les égouts en dessous. Or, quand on a découvert les égouts en dessous, on a retrouvé des squelettes, des jarres et des casseroles, des éléments de cuisine. Et les archéologues se sont demandé, mais qu'est-ce que font des éléments de cuisine et qu'est-ce que font des squelettes humains dans les conduits des égouts de Jérusalem qui dataient de 2000 ans, qui dataient du roi Hérode. Eh bien, un archéologue a dit « Oh, mais il me semble que j'ai lu quelque chose là-dessus. Attendez, ça doit être dans Flavius Josèphe. » Et là, c'est les archéologues aujourd'hui qui vont reprendre le livre de Flavius Josèphe et qui découvrent que les derniers révoltés, ceux qui n'avaient pas encore été massacrés par la terrible répression romaine, s'étaient cachés avec de la nourriture dans les conduits, il le dit Flavius Josèphe, dans les conduits des égouts de Jérusalem, et sont morts de faim, parce qu'après avoir consommé ce qu'ils avaient pris, c'était pas... Et ils sont morts dans les égouts, et Flavius Josèphe dit nombreux sont qui sont morts. Et bien, on retrouve des squelettes. Donc, sur les faits...
Ça reste une source historique
de premier plan. Une source qui est indéniable. Masada, il n'y a que lui qui en parle, oui. Et on en retrouve le rocher. Gamla, c'est pareil. Gamla, c'est une ville dans le Golan aussi, où 6 ans avant, eh bien, les combattants se sont jetés avec leurs femmes, leurs enfants, dans le vide pour ne pas tomber vivants aux mains des Romains. C'est une source intéressante. Moi, j'appelle ça la troisième Bible. Je dis ça aux chrétiens. Je dis, nous, on a l'Ancien Testament, nous, les Juifs. Vous avez le Nouveau, et on a une troisième Bible qui s'appelle Flavius Josèphe, parce que c'est un trésor, un puits de science. Évidemment, il a derrière ça un objectif, celui de s'innocenter, celui de se blanchir, parce qu'il n'a pas voulu mourir, il a préféré tomber vivant aux mains des Romains, mais il a été nommé par Vespasien, donc le général de l'époque, qui plus tard sera empereur, il a été nommé pour continuer la guerre avec Titus, et surtout noter les batailles et les événements et les faits. Car les Romains, lorsqu'ils menaient de grandes campagnes militaires, prenaient toujours avec eux un historien qui écrivait l'histoire donc de leur bataille, de leur conquête, pour justement que cette histoire se perpétue et reste dans le domaine, je dirais, de l'humanité. Vous savez, Flavius Josèphe, d'ailleurs, c'est grâce à des chrétiens qui ont recopié les manuscrits qu'on a redécouvert ces livres qui ont fait l'objet d'intérêt seulement à partir du milieu du 19e siècle. Avant, personne ne connaissait Flavius Josèphe.
Comment avez-vous sélectionné les idées reçues sur le judaïsme ? Est-ce que c'était difficile de n'en choisir que 28 ?
Alors, il y a des sujets, par exemple, que je ne voulais pas évoquer. Par exemple, des sujets qui touchent à la Shoah. Parce que c'est encore trop douloureux, c'est encore peut-être trop proche. Et ça, je ne voulais pas, par exemple, en parler. Donc, je me suis abstenu, bien qu'il y a beaucoup d'idées reçues, de mythes qu'on rapporte sur la Shoah. Et beaucoup de choses qui restent, je dirais, pas un mystère, mais des questions sur certains secteurs qui ne faisaient pas partie, par exemple, des maquis. Enfin, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais j'ai pris, bah, si vous voulez, sur une liste d'environ 40, ceux qui revenaient le plus, ceux qui étaient ceux qui m'intéressaient aussi le plus. Mais c'est évident que je n'ai pas encore terminé, je ne sais pas si je terminerai... parce qu'il y en a sûrement d'autres, j'en découvre encore. Je ne sais pas s'il y aura un troisième ouvrage. Et il y a un troisième ouvrage d'ailleurs qui doit être publié, mais pas sur des idées reçues. Ce sera en avril 2025. J'en parle très brièvement dans l'un des chapitres sur le prosélytisme juif, c'est-à-dire l'histoire de la conversion au judaïsme. Mais ça, ce sera un livre sur un phénomène religieux, donc la conversion au judaïsme. Et ce phénomène-là, de la Bible à nos jours, c'est-à-dire comment ça a commencé, comment ça a évolué, comment nous étions des prosélytes acharnés et même violents, et même guerriers, et comment nous nous sommes petit à petit quasiment interdits à convertir des non-juifs. Donc j'essaye d'analyser un petit peu le processus. Voilà. Et puis il y a un projet qui est en œuvre aussi sur la condition de la femme juive dans le judaïsme aussi, de la Bible à nos jours, et vous avez raison de hocher la tête, parce que même si je pensais connaître un petit peu d'éléments sur ce sujet, il s'avère que là, j'ouvre une boîte de Pandore qui est très douloureuse, et voilà, et je me pose des questions sur, voilà, sur les discours d'aujourd'hui, sur... voilà. Enfin, tout ça, c'est des projets qui sont des projets concrets, hein, qui sont déjà en œuvre, mais ça viendra en 2025.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de David Shapira, qui nous parle de sa double actualité, la parution de 16 idées reçues sur le judaïsme et 12 autres idées reçues sur le judaïsme, de tomes qui viennent de paraître chez Auteurs du Monde. Alors j'aurais envie de discuter avec vous du contenu, mais on va survoler quelques idées, et notamment celle du monothéisme. Dans les études juives aujourd'hui, c'est un sujet qui est important, qui rebat un petit peu les cartes, et vous expliquerez clairement que le monothéisme est le résultat d'une lente évolution, et ce n'est pas une révélation immédiate abrahamique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
J'ai constaté qu'il y avait quelque chose de très particulier dans cette histoire de « nous étions les premiers à être monothéistes ». Alors, on se rend compte que, évidemment, vous avez raison, dans le texte, Abraham, Isaac, Jacob, qui n'est pas, c'est pas encore un peuple, sont nos patriarches qui, eux, ont la révélation. Et vous avez, après, en Égypte, après la sortie d'Égypte, conduite par Moïse, la révélation de 10 plaies, de l'ouverture de la mer Rouge, tout ça, c'est extraordinaire. On arrive aussi dans le désert. Et la première chose que va faire le peuple, les Hébreux, les enfants d'Israël, en fait, c'est un veau d'or. Et je me rends compte que, en fin de compte, quand on prend l'histoire, je dirais l'histoire de la royauté du peuple, c'est une histoire qui commence à partir du livre de Samuel, donc on peut dire à partir de Saül, David et Salomon, très très rapidement, Salomon, qui est encore une fois l'homme le plus sage de la terre, l'homme le plus intelligent, l'homme qui parle aux animaux, l'homme va plonger dans une idolâtrie qui en fait ne cessera jamais. C'est-à-dire qu'à partir de moins 950, moins 920, bien que Salomon construit un temple à l'éternel Dieu unique, il y a des cultes idolâtres qui sont pratiqués dans tout l'ensemble du royaume. Et ça continue pendant des siècles. Et je me rends compte que pendant des siècles, certains rois de Judée, je ne parle pas du royaume d'Israël qui est complètement idolâtre jusqu'au bout, mais certains rois de Judée comme Ézéchias, Josias et un autre, tentent de faire des réformes qui vont dans le sens d'un monothéisme et d'une lutte acharnée contre les prêtres idolâtres. Et ça ne marche pas. À chaque fois, ces réformes sont un échec cuisant. Alors, il y a un culte à Yahvé, un culte à Dieu, mais il y a des cultes parallèles, des fois pratiqués dans le temple, des fois hors du temple, qui sont des cultes à des dieux ou des déesses étrangères, comme le Baal, qui est souvent appelé dans la Bible, comme Asherah. Et là, je me rends compte, en fin de compte, que après la destruction du royaume de Judée par Nabucodonosor en moins 586, il y a un traumatisme terrible en exil. La Babylonie devient la Perse. La Perse, il y a toutes sortes de philosophies. Et quand le peuple revient petit à petit à Jérusalem, c'est là vraiment qu'il devient réellement et totalement et absolument monothéisme. Monothéiste, pardon. Et donc je me dis, si on était monothéiste depuis le début, comme la Bible le prétend, comment se fait-il pendant des siècles que nous avons été polythéistes? Peut-être de réfléchir sur des influences de culte ou de philosophie perse à l'époque, où il y a une dualité entre le bien et le mal, les ténèbres, la lumière, un paradis, un enfer, une force unique, il faudrait... Vous savez, et je le vois très bien quand j'écris sur la condition de la femme juive dans le judaïsme, nous sommes aussi influencés par les différentes cultures des peuples qui nous entourent. Ceux qui imaginent une seconde que nous avons vécu pendant des siècles sur une terre, dans une bulle complètement hermétique à tout ce qui se passe autour de nous, je pense qu'ils ont une très très mauvaise idée de l'histoire juive, et il suffit de voir comment nous nous habillons, ce que nous mangeons entre le sushi et l'hamburger, pour comprendre que nous sommes tous, nous tous, influencés par des cultures qui sont des cultures environnantes. La fête de Hanouka, puisque maintenant nous sommes en plein dedans, c'est un combat pour... faire revenir notre culture, notre tradition face à un courant hellénisant qui mettait en danger, si vous voulez, le monothéisme juif, la pratique des commandements juifs. Et nous sommes tout le temps influencés par les peuples qui nous entourent, pour le meilleur, ouais, mais aussi pour le pire.
J'aime bien cette formule entre texte et contexte. Eh bien, notre civilisation s'est élaborée. Vous avez cité le nom de Asherah. Alors, j'aime bien, hein, cette représentation ou Astarté qui a partagé le trône divin avec le Dieu unique pendant des siècles. Vous expliquez que les origines de cette cohabitation dans la pensée religieuse juive, et c'est aussi une idée reçue que nous avions.
Alors c'est un chapitre en fait qui a choqué, peut-être qui a peut-être le plus choqué mes amis croyants et pratiquants, bien que ce n'est pas le but, encore une fois c'est pas le but, mais il y a différents sites archéologiques où nous avons retrouvé ce qu'on appelle des autels, hein, A-U-T-E-L-S, où le nom de Dieu était gravé sur la pierre, et à côté de lui, sur un autre siège, le nom d'Asherah. Ce qui laisse penser aux archéologues que Dieu n'était pas célibataire, mais marié à une déesse, qui elle représentait la fertilité, la fécondation... l'abondance, et son mari, c'est un peu blasphématoire ce que je dis là au micro, j'espère que vous n'en voudrez pas, mais il y avait un dieu qui était lui le dieu de la puissance, de la force, qui englobait tout, encore une fois toutes les autres forces, mis à part la fécondité, la fertilité, parce que ça c'est donné à une femme. Donc il y a un culte qui est vénéré à Asherah dans la Bible, mais qui est un culte qui est vénéré pendant des siècles. La Torah, le Pentateuque, est explicite, il faut combattre Asherah, parce que ce culte-là est ancré, profondément ancré, au sein du royaume d'Israël, du royaume de Judée. Il y avait des arbres, on sait qu'il y avait des cérémonies, on ne sait pas exactement comment ça se passait, il y avait du vin, mais le culte d'Asherah est un culte profondément, encore une fois, implanté, et vous retrouvez dans toutes les civilisations une déesse qui est la déesse de la fertilité et de la fécondation. Encore une fois, nous ne sommes pas dans une bulle. Nous ne vivons pas en vase clos. Nous sommes... le roi Salomon se marie avec 1000 femmes, entre autres pour conclure des alliances avec des peuples étrangers, comme faisaient les rois quand ils mariaient leurs enfants à des princesses d'autres royaumes. Donc, on vit avec les autres, on vit avec les Cananéens qui nous entourent.
Comment est accueilli le livre? Vous avez fait plusieurs conférences, vous rencontrez votre public. Qu'est-ce qu'on vous dit après la lecture du livre, livres?
Quand je présente le livre, j'essaye de ne pas choquer, parce que mon but n'est pas de choquer, mais mon but est d'essayer de rétablir une vérité historique. Le but n'est pas de... Parce que tout compte fait, comme je le dis d'ailleurs à différentes reprises, si telle ou telle histoire du Talmud est authentique ou pas, on s'en fiche en fait. C'est pas ça l'important. L'important... surtout dans le Talmud, c'est de comprendre quel est l'enseignement, quelle est la morale de l'histoire, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre, qu'est-ce qu'on veut nous dire, quel est le message. Et ce message, il est englobé, entouré par une histoire D'où souvent l'authenticité n'est pas confirmée, loin de là. Donc je ne m'attaque pas à la sagesse, ni au message, qui était un message merveilleux et formidable, et qui est avant-gardiste, mais j'essaye de replacer, vous avez raison, j'ai été agressé gentiment, une ou deux fois ou trois fois, en disant vous dites du mal, quand vous dites vous déconstruisez, j'essaie juste de rectifier. Et si je dis, là encore c'est peut-être blasphématoire, mais que la révolte, par exemple, de Bar Korva, une révolte qui a duré 3 ans, entre 132 et 135, et qui a amené à la destruction, à l'élimination physique totale des Juifs en Judée, à plus de 600-700 000 morts, ça a été l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire juive. À l'époque, le peuple juif de Judée comptait 900 000 à 1 million de personnes. Vous imaginez, les Romains ont massacré 600-700 000, c'est presque l'élimination totale. Eh bien, je dis, beaucoup de grands sages ont soutenu Bar Korva. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on a le droit de dire ils se sont trompés, parce que les conséquences de cette révolte, c'est l'exil, d'abord, c'est la diaspora, et puis ça a été quasi, on peut parler d'un quasi-effacement du peuple juif. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là que la Judée est débaptisée et qu'on la nomme la Palestine, et que toutes les villes de Judée sont rebaptisées en nom romain. Donc vous voyez, la révolte de Bar Korva, même si elle a été soutenue par d'immenses sages, eh bien, 2000 ans après, ou 1900 ans après, on peut dire que c'était un échec. On a le droit de dire que c'était un échec, c'était une erreur.
Et puis il faut dire aussi que ces mythes ne sont pas spécifiques à la tradition juive. Aussi, dans les autres traditions monothéistes, le christianisme ou l'islam, il y a aussi des idées reçues, et que peut-être que ça pourrait être l'objet de prochaines réflexions.
Oui, mais déjà je vais me fâcher avec une partie du monde juif, donc je pourrais écrire aussi sur beaucoup d'idées reçues, de mythes sur le christianisme. Il y en a beaucoup. J'essaie de les exposer lorsque je fais visiter Jérusalem à des chrétiens, qui sont extrêmement, d'ailleurs, extrêmement choqués à la fin de leur visite, en disant « Mais David, tu nous as détruit 40 ans de kétéchisme. Tu nous as tout remis en place, et tu nous as tout détruit, tu nous as tout balayé, et maintenant tu nous as expliqué ça. Comment on fait, comment on va faire pour digérer, ça va nous prendre des mois. » Bon. Mais disons que je vais limiter la casse et je vais essayer de me fâcher qu'avec une certaine partie du monde juif et pas le monde chrétien et le monde musulman. Là aussi, évidemment, plus les religions sont tardives et plus elles ont besoin aussi de miracles et de faits qui ne sont pas non plus ni historiques ni authentiques.
Alors justement, à qui s'adressent ces réflexions ? À tous, aux curieux, aux plus jeunes, aux moins jeunes, à toutes les religions, aux croyants, aux mécréants ?
À tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du peuple juif, aussi à l'histoire des sites touristiques bibliques en Israël, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup aussi, dans le second livre sur le sionisme, le début du sionisme, les luttes intestines entre les chassidim et ceux qui s'opposaient à la chassidoute. Il y a des chapitres sur la mode juive, vous savez, la mode vestimentaire juive, qui n'est pas du tout un vêtement juif. Et voilà, c'est toutes les questions que me posaient les gens en disant « Mais pourquoi celui-là, il a un chapeau noir avec une redingote et des chaussettes noires ?» Et c'est ça l'habit juif. Voilà, j'essaie de me pencher sur cette mode vestimentaire juive, y compris une mode capillaire. J'essaie de remonter les sources, enfin, je suis tombé sur certains ouvrages et j'ai découvert qu'en fait c'était des vêtements tout à fait polonais que les nobles portaient et que les juifs qui prospéraient en affaires voulaient absolument ressembler, là encore, en influence, aux autres nobles polonais qui avaient réussi, qui étaient riches, et puis prévenu la Révolution française avec la mode française. Les Polonais ont changé de mode, mais nous les juifs, on est restés sur la même mode de la redingote et du Streimel.
C'est une question classique pour conclure cette émission, mais qui reste difficile. En une ou deux phrases, comment donneriez-vous l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de lire votre livre, vos livres, de les offrir, de se les offrir ? Qu'est-ce que vous leur diriez ?
Alors, je dirais que d'abord, pour moi, c'est d'abord 40 ans d'études du judaïsme, parce que je n'ai pas cessé d'étudier depuis l'âge de 15-16 ans, et j'en ai 59. Et c'est une réflexion de 40 ans d'études sur ce qu'on dit, sur la façon dont on étudie. Et la deuxième réponse, c'est si je mets au défi les personnes qui lisent chaque chapitre de ces livres-ci, ils n'ont rien appris à chaque chapitre, ben je leur rembourse le livre. Voilà. Je crois que c'est un bon argument.
Alors, c'est un très bon teasing. Merci beaucoup, David Shapira, d'être venu dans notre émission parler de votre double actualité, la parution de 16 idées reçues sur le judaïsme, complétée du volume 12 autres idées reçues sur le judaïsme.
Qui sort le 15 janvier. En fait, il n'est pas encore sorti officiellement, mais on peut se le procurer directement
chez Auteur du Monde.
Chez Auteur du Monde sur le site internet, et le 15 janvier dans les librairies.
Merci, à très bientôt.
Merci à vous. Bonsoir. Au revoir et à bientôt.
Radio Shalom, la radio qui vous écoute. La radio qui vous écoute. Radio Shalom.
Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet.
Radio Shalom. Radio Shalom sur le 94.8 FM.
I had a dream so big and loud, I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, oh.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Qu'on s'en aille, pieds nus dans le sable, danser toute la nuit près de moi, mon cœur te réclame, en chair et en âme, Dieu créa la femme, dans ma destinée, enfin tu apparais, tu es ma señorita. Jamais pour moi, ton regard fait briller larmes de joie. À travers toi, vivons un rêve, un espoir. Peut-être juste un soir, dans tes bras, je vais pouvoir enfin me reposer. Laisse-moi du courage si un jour tu pars. À présent, je sais, je le dis pas jamais. Tu es ma señorita. Señorita.
Radio Shalom sur Android et Apple.
Android et Apple
avec l'application Radio Shalom.
J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dans mes crois plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous.
Suivez Radio Shalom sur Facebook, Twitter et Instagram.
Twitter et Instagram.
Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey.
But you won't be one. Like what?
La musique, c'est sur Radio Shalom.
C'est sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Yeah.
was young. It's not my problem. It's not my problem. Woo-hoo! When I feel heavy metal, woo-hoo! And I feel that I'm in a woo-hoo! When I'm not and I'm in sync, all of the time, but I'm never sure what I'm in sync. It's a bitch, yeah.
Vous êtes sur Radio Shalom. C'est sur Radio Shalom.
C'est sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking.
Keep up.
Players only.
Come on. Put your pinky rings up to the moon.
Girls, what y'all trying to do?
24 karat magic in the air.
Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach.
Uh-oh.
I cannot preach.
Uh-oh.
I gotta show them how I pimp, get it in.
First,
take your sip,
sip.
Do your dip,
dip.
Spend your money like
money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh.
Got to blame it on Jesus.
Hashtag blessed.
They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jumping.
Keep up.
Players only.
Come on. Put your pinky rings up to the moon.
Woo.
Girls, what y'all trying to do?